Eh bien, bonsoir à vous tous et merci d'être là aujourd'hui pour découvrir ce qui se cache derrière « Nous irons tous au paradis », titre ô combien réconfortant et qui n'est pas sans rappeler une chanson que nous avons tous en tête, celle de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis ». Néanmoins, ce titre, qui est écrit en gros sur la page de ce livre publié chez Albin Michel, ne vient pas cacher, mais au contraire souligner, une notion quelque peu effrayante, le jugement dernier. Marie Balmarie, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à la librairie Mola de Bordeaux. Vous êtes psychanalyste, clinicienne et chercheuse, et vous n'avez de cesse d'explorer la mythologie grecque, le mythe d'Œdipe par exemple, et ce qui nous intéresse ce soir, la Bible, avec cette grande question sur le jugement dernier. Je rappelle quelques-uns de vos nombreux ouvrages, Freud jusqu'à Dieu, publié chez Actes Sud en 2010, Le moine et la psychanalyste, publié chez Albin Michel en 2005, ou encore Le sacrifice interdit, Freud et la Bible, chez Grasset en 1986. Et pardon de ne pas tout citer, mais je renvoie le lecteur à votre bibliographie qui se trouve à la fin de ce livre. Et aujourd'hui, nous irons tous au paradis, le jugement dernier en question chez Albin Michel, un ouvrage écrit à quatre mains avec Daniel Marguerat. Daniel Marguerat est un exégète et bibliste. Il a enseigné le Nouveau Testament à l'Université de Lausanne de 1984 à 2008. Il est désormais professeur honoraire de cette université. Il a également été pasteur dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud en Suisse. Son travail porte notamment sur la question du Jésus de l'histoire et la construction de la théologie paulinienne, Saint Paul. Il a aussi beaucoup travaillé sur le livre des Actes des Apôtres, l'Évangile de Matthieu. Je vous renvoie là aussi à sa nombreuse bibliographie qui se trouve à la fin de cet ouvrage. Alors je précise pour ma part que je ne suis ni psychanalyste, ni spécialiste de Freud, ni théologienne, ni philosophe, mais une simple lectrice comme vous, qui, avant de commencer la lecture de ces livres, avait assez peur du jugement dernier, et puis qui se posait beaucoup la question de savoir si moi aussi j'irai au paradis. Alors une question toute simple d'introduction, Marie Balmarie, est-ce la chanson de Michel Polnareff, chantée pour la première fois, me semble-t-il, en 1972, qui vous a interpellée, ou plus sérieusement, votre rencontre avec Daniel Marguerat, et comment vous est venue l'idée d'écrire à quatre mains, alors que, comme vous le précisez dans la conclusion, au moins quatre différences vous séparaient, ne serait-ce que le sexe, la nationalité, l'origine.
Alors, ça nous est venu d'abord par un incident. Nous étions tous les deux conviés en Suisse à faire une journée de réflexion, de conférence sur la mort, qui n'est déjà pas un sujet facile. Et donc, notre public et nous, ça s'était très bien passé. Nous avions discuté, fait des conférences, mais aussi beaucoup de temps de parole entre nous, les uns et les autres. Et puis, je devais prendre un train à 5 heures. Il était 4 heures moins 5. Et j'avais la montagne à descendre pour aller à Lausanne. Et à 4 heures moins 5, Daniel Marguerat a dit... Lorsque je comparerai devant Dieu, attendez que je me rappelle exactement ces paroles.
Dieu se prononcera sur la vérité de chacun.
Merci. Dieu se prononcera sur la vérité de chacun pour son bonheur et pour sa honte. Il a même dit pour mon bonheur et pour ma honte. Et à ce moment-là, je ne m'attendais pas du tout à cela. J'ai crié. J'ai dit ah non. Alors évidemment, ça ne se fait pas, les conférencières, ça ne crie pas d'habitude. Et donc la salle a éclaté de rire, nous nous sommes retrouvés un peu saisis. Et il était 4h moins 5, malgré l'attente du public, nous n'avions pas pu ouvrir le débat sur ce désaccord, alors que nous avions beaucoup de points d'accord. Et en me raccompagnant à la gare, il m'a dit « Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait continuer ce débat, peut-être écrire ensemble ?» C'était, voilà, la vie nous a occupés pendant plusieurs années à autre chose. Et puis l'année dernière, il m'a rappelé notre projet. Et voilà, est-ce que vous seriez d'accord encore pour écrire sur ce sujet ? Je dis oui. Et nous avons prévu d'écrire chacun un chapitre en nous limitant à 8. Voilà, donc ça faisait 4 chacun. C'est comme ça qu'est né ce livre. Un peu improbable, un peu inattendu. Aucun de nous deux ne savait si ça allait marcher.
Alors, comme vous venez de le dire, votre ouvrage s'articule, outre l'avant-propos et la conclusion, autour de 8 chapitres dans lesquels vous alternez vos voix, en repartant à chaque fois du point de vue de l'interlocuteur et tout en avançant un nouvel argument et ainsi de suite. 8 chapitres, 8 symboles de la perfection, de l'infini, symboles de l'équilibre. Alors je suis allée un peu surfer sur Internet à la recherche de toutes les propriétés de ce chiffre 8. 8, c'est aussi le symbole de la résurrection, c'est le 8e jour, le jour de l'avènement du règne de Dieu sur terre. Et vous avez d'ailleurs à ce sujet une explication très étonnante avec la parabole des talents, mais nous y reviendrons par la suite. Et revenons d'abord à la définition, entre guillemets, primaire du jugement dernier, celle que l'on trouve sur les magnifiques tympans des églises romanes. Où entendons-nous parler de ce jugement dernier dans la Bible ? Car si je comprends bien, les premiers chrétiens n'ont pas inventé l'idée d'un jugement. En fait, ils l'ont hérité du judaïsme.
Oui, et alors sur cette question, j'aime mieux renvoyer à ce qu'écrit Daniel Margera, parce que c'est un bibliste confirmé. Mais en effet, vous le verrez si vous lisez cet ouvrage, il viendra confirmer que ce qui est inscrit au tympan de nos cathédrales ne correspond pas, n'a pas d'appui dans les textes bibliques. Et voilà, est-ce que c'est ça que vous vouliez me demander ?
Tout à fait, les caractères non bibliques de toute cette scène d'horreur. Et d'ailleurs, on est bien plus fasciné par l'enfer que par le paradis. C'est beaucoup plus drôle de regarder du côté des sculptures infernales.
Tout à fait, le paradis, ça a l'air d'être harmonieux et très ennuyeux, non ?
Alors pourquoi aujourd'hui, le jugement dernier a déserté la vitrine du christianisme, pour reprendre une image de Daniel Margera ? Est-ce qu'aujourd'hui, le thème du jugement dernier s'est évaporé ou au contraire s'est-il transformé ?
Alors là, c'est un autre point de vue que nous avions à prendre, c'est où est passé le jugement dernier ? Est-ce que vraiment on ira tous au paradis et c'est fini, on n'en parle plus ? Ou bien, subrepticement, la charge émotive très importante qu'il y a eu pendant des siècles sur ce thème s'est enfouie, comme si on peut dire refoulée, si je prends le terme au sens courant. Et est-ce qu'on le trouve ailleurs ? Alors, pour ma part, je pense qu'on le retrouve dans la science-fiction, on le retrouve dans des quêtes du bien et du mal, comme dans les aventures d'Harry Potter qui ont tellement passionné, qui passionnent tellement nos enfants et adolescents, et même adultes. Et puis, il y a beaucoup de films, de musique de films où on entend le dies irae passer. Ça paraissait impossible que ce thème-là est disparu complètement de la culture. Et Daniel Margera, pour sa part, mais il vous le dirait mieux s'il était là, voit aussi dans l'intérêt pour les romans policiers un intérêt pour des histoires où la justice est tout le temps honorée, finalement. On trouve le coupable.
Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur Harry Potter, parce que j'imagine que parmi vous, vous avez beaucoup d'enfants ou de petits-enfants qui ont lu ou qui lisent Harry Potter. Et je vous renvoie à ces ouvrages, puisqu'il est question, bien sûr, de la pierre tombale des parents d'Harry Potter ou de celle de la famille Dumbledore, sur laquelle est écrite une phrase tirée de Matthieu, chapitre 6, verset 21. « Là où est ton trésor, ton cœur y sera aussi. » Là aussi, il y a quand même une...
Oui, et puis le dernier ennemi vaincu, c'est la mort. C'est aussi sur une autre pierre tombale. Donc, on peut penser... Et je crois que l'auteur dit quelque part que ces phrases résument toute la série. Donc, elle a tout à fait conscience que c'est de ça qu'il s'agit.
La psychanalyse est une discipline laïque. Elle a réduit la foi en Dieu à une névrose infantile de l'humanité en quête d'un Père Tout-Puissant. Là, je reprends vos propos du chapitre 2. Alors, question bien naïve, pardonnez-moi Marie Balmary, mais n'y a-t-il pas antinomie entre le jugement dernier et la psychanalyse ? Car enfin, tout porte finalement sur la question de la responsabilité humaine et derrière aussi la honte.
Alors, il y a deux choses, me semble-t-il, dans votre question, pas si simple que ça. D'abord, la non-croyance en l'au-delà des fondateurs de la psychanalyse. Freud disait que dans son entourage, tous ses collègues étaient athées, donc on n'avait pas à se poser la question de l'au-delà. Mais en même temps, quand il commence son livre « Psychopathologie de la vie quotidienne », il choisit comme par hasard un oubli qui lui vient du nom du peintre qui a peint la fresque du Jugement dernier dans la cathédrale d'Orvieto. Alors, c'est pas le moment de reprendre tout ça, mais c'est quand même étonnant que la première fois où il écrit sur la vie de tous les jours, ce soit justement ce thème-là qui lui vienne.
Il y a aussi la question de la confiance derrière le Jugement dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
La confiance en...
La confiance, Dieu nous fait don de sa confiance, parce que c'est totalement gratuit. À nous de savoir ce que nous allons faire de cette confiance. Est-ce que ce n'est pas ça, quelque part, le Jugement dernier ?
Alors, dans ce livre, je pense qu'on navigue beaucoup entre... Dieu nous fait confiance et peut-on faire confiance à Dieu ? Et même Daniel Marguerat dit que dans l'Antiquité, on ne se posait pas la question de Dieu existe-t-il, parce que ça n'était pas à l'ordre du jour, mais c'était peut-on faire confiance à ce Dieu-là ? Donc, vous voyez, la confiance est il y a deux mouvements dans cette interrogation, sauf si on se pose dans une attitude de catéchétique, c'est-à-dire Dieu nous fait confiance, Dieu est bon, etc. Ce n'était pas notre point de vue. Donc on met à l'épreuve, si vous voulez, est-ce que s'il y a un juge, s'il n'y a rien après la mort, ce n'est pas la peine de faire un livre, et s'il y a quelque chose après la mort et un passage, et qu'il y a un juge, est-ce qu'on peut... lui faire confiance ? Est-ce que lui aussi nous fait confiance ? Voilà, c'est plus des questions que des réponses que j'ai à répondre à votre question.
Au fil des chapitres, nous découvrons ou redécouvrons les paraboles du Nouveau Testament. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition du mot « parabole » ? Et l'on voit bien que la plupart sont agraires. Est-ce qu'on peut affirmer que, sans le nommer explicitement, Jésus fait référence au Jugement dernier ?
Alors, me demander des définitions, si mes amis et chercheurs étaient là, ils éclateraient de rire en disant « Marie n'est pas du tout bonne pour les définitions ». Enfin, il y a le mot grec, « parabalo », je lance à côté. C'est près du symbole, on raconte une histoire pour faire comprendre quelque chose qu'on ne pourrait pas dire directement. Alors, vous pouvez me redire ce que vous me demandez.
Oui, la plupart des paraboles que l'on trouve dans le Nouveau Testament, pardon, et notamment chez Matthieu, sont des paraboles agraires. Oui. C'est toujours l'histoire de champs, vous savez, le bon grain de l'ivraie, etc. Est-ce qu'on peut affirmer que, sans le nommer explicitement, quand Jésus raconte ses paraboles, finalement, il fait quand même référence au Jugement dernier ?
Alors, avec les paraboles, on peut affirmer quelque chose et en même temps échapper à une affirmation, puisqu'on n'est pas directement confronté à quelque chose qui contraint la raison. C'est une histoire donc, qui va demander une interprétation. Et comme tout ce qui demande une interprétation, ça laisse une liberté de penser. Alors, il y a ces paraboles, par exemple, si vous prenez le bon grain livré que vous venez de citer, il est étonnant, par exemple, de voir que cette parabole, dont on peut dire on fera le tri entre les bons et les mauvais, ça peut être, on peut la lire d'une façon extrêmement sévère. Et puis, il y a aussi une autre lecture, par exemple, où on voit que l'ivraie a été semée pendant la nuit. C'est-à-dire que personne n'est responsable, parce qu'il est normal de dormir pendant la nuit. Et donc, quand les ouvriers viennent dire au maître comment ça se fait qu'il y ait de l'ivraie, eh bien, on s'aperçoit que l'ennemi est venu pendant la nuit. Personne n'est coupable, là. Il y a quelque chose qui s'est passé, un ennemi. Mais, vous voyez, c'est une parabole qui n'est pas culpabilisante, qui est une... ça rend compte de la situation dans laquelle le mal s'introduit, mais voilà, moi je suis sensible au fait qu'il soit dit que c'est de nuit et qu'on ne savait pas que ça avait eu lieu.
Dans votre livre, vous attirez notre attention sur les traductions souvent erronées de la Bible et les contresens, les erreurs d'interprétation qui peuvent en découler. Par exemple, le mot « pistis » qui veut dire « foi » ou qui veut dire « confiance ». Les mots de l'enfer aussi, le mot « flamme », le mot « torture », le mot « supplice ». Et vous évoquez d'ailleurs la parabole du riche et du pauvre Lazare. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Parce qu'effectivement, on arrive souvent à des erreurs assez grossières.
C'est là où on voit le travail de l'esprit humain avec plusieurs niveaux, si vous voulez. Moi, je suis très frappée de cela, qu'il y ait pour dire les choses sur un ton de psychanalyste, il y a une lecture du surmoi, une lecture du sujet. C'est-à-dire, il y a une lecture qui est où on va chercher l'endroit où on est en tort, et c'est le super gendarme, c'est le Dieu qui juge, et puis... en général, on a ça comme première lecture parce que ça correspond à notre idée du bien et du mal, à notre enfance, à notre culpabilisation inévitable. Et puis, en creusant les textes, et alors là, c'est étonnant parce que plus on est proche de la lettre, et moins c'est culpabilisant. Et il y a, à ce moment-là, apparaît un autre mouvement. Alors attendez, vous m'avez pris... Excusez-moi.
J'ai pris le mot pistis.
Pistis,
oui. Vous parlez dans le livre.
Et Daniel Mergueran lui-même dit que quel dommage qu'on ait traduit par foi, qui va du côté de croyance, alors que c'est du côté d'avoir confiance. C'est quelqu'un... On peut avoir confiance en lui. En hébreu, on peut s'appuyer sur, c'est solide. Alors la confiance, ça n'est pas du tout l'adhésion à une idéologie, c'est l'appui sur quelque chose ou quelqu'un de solide.
Vous parlez également des mots de l'enfer et oui. Vous dites qu'ils sont souvent erronés, notamment le mot « supplice ». En parlant d'ailleurs de cette parabole du riche et du pauvre.
Alors ça, c'était assez saisissant parce que dans cette parabole dont vous vous souvenez sans doute, les deux, c'est le riche et le pauvre Lazare, n'est-ce pas ? Le riche meurt et le riche qui ne faisait pas attention à...
Oui, Lazare et ce pauvre qui est à la porte du riche, la porte est fermée, il est là, il ne peut même pas aller ramasser les miettes de la table du riche parce que la porte est fermée. Il est là avec tous ses escarres, toutes ses plaies purulentes. Et le riche ne s'en soucie pas, il ne se rend même pas compte que le pauvre est à la porte de chez lui. Et puis Lazare, le pauvre, meurt et en même temps le riche meurt. Et ils montent tous les deux, enfin, ils arrivent tous les deux devant Dieu et Abraham prend en son sein Lazare et le riche, lui, n'a pas du tout... droit à l'amour et à l'accueil d'Abraham et il dit qu'il part dans les tourments et il demande même à boire et même ça lui sera refusé. Il demande aussi à pouvoir prévenir sa famille de changer de vie, ça lui est refusé également.
Parce qu'on lui dit ils ont Moïse et les prophètes, ça leur suffit. Alors sans reprendre, évidemment, c'est très difficile de faire par oral la transmission de choses où il faudrait que vous ayez vous-même les textes, qu'on puisse les regarder ensemble. Mais, par exemple, ce mot « supplice », « je suis au supplice », dit celui qui est supposé être en enfer. Ce mot « supplice », bon, j'ai cherché tout simplement, où est-ce qu'il était ailleurs ? Quel autre emploi ? Vous savez, quand on étudie ces textes bibliques, une des façons de faire, c'est de chercher quels sont les autres emplois, puisque les traductions ont pu fausser bien des choses. Donc, en vérifiant où c'est employé ailleurs, ça donne une idée du sens. Or, ce verbe « odunao » n'est employé qu'une seule autre fois. Alors je me suis demandé, mais qui donc a été au supplice avant cet homme, ce riche qui semble condamné aux flammes de l'enfer ? Et Odunao, ça n'est employé qu'une seule fois. C'est toujours dans l'évangile de Luc, autant que je me souvienne, et c'est Marie, la mère de Jésus, qui l'emploie. Alors je me suis dit, c'est au pied de la croix, mais non, elle n'y a pas de parole de Marie au pied de la croix. Donc, eh bien, c'est au temple. Quand Jésus, enfant, est resté au temple, tandis que ses parents sont partis, croyant qu'il était dans la caravane, et puis ils s'aperçoivent qu'il n'est pas là, ils reviennent, et pendant, ils mettent 3 jours à le retrouver dans le temple. Et quand ils le retrouvent dans le temple, parmi les docteurs, comme vous avez peut-être l'image devant les yeux, elle lui dit, elle emploie ce mot pour lui dire la peine qu'elle éprouve. Alors, on a du mal à croire que ce verbe qui veut dire « je souffre, nous souffrons extrêmement », enfin, ton père et moi, nous sommes dans la grande souffrance, ce qu'on comprend tout à fait. On perd un enfant pendant 3 jours, on est dans tous ses états. Eh bien, c'est le même verbe. Alors, ça désamorce de beaucoup, évidemment, le thème de l'enfer dans les flammes, parce que qui peut être le moins en enfer que Marie et Joseph, et qui peut vouloir le moins les y fourrer que Jésus. Donc, vous voyez, c'est ce genre de rapprochement qui donne une autre ouverture, une autre interprétation.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas depuis le début de... Enfin, au Moyen-Âge, en tout cas, depuis l'invention de l'écriture aussi, une mauvaise traduction, finalement, des écritures, et qui a donné lieu à toute cette imagerie du jugement dernier ?
Oui, il y a un moment où nous avons pensé ça, en se disant c'est pas possible, même pour le sacrifice d'Abraham, on se disait c'est pas possible que nous pauvres gens du 20e ou 21e siècle, nous trouvions quelque chose que 20 siècles avant nous n'ont pas trouvé. Donc ça nous rendait un peu sceptiques. Et puis en fait, en recherchant dans les écritures, dans la tradition juive, dans l'interprétation des pères de l'Église, souvent nous avons retrouvé une interprétation qui était déjà là, mais qui n'était pas transmise. Donc c'est assez troublant et intéressant de voir qu'on peut refouler des interprétations, qu'elles peuvent disparaître pendant des siècles, et puis elles réapparaissent. Et là, la psychanalyse, je dois dire, ne manque, c'est intéressant parce que c'est une façon d'aller loin dans l'interprétation.
Alors, vous avez dit que donc le jugement dernier n'était pas du tout mentionné dans la Bible tel qu'on peut le voir sur les portails des églises, notamment des églises romanes. Daniel Margera dit que le christianisme a dépoussiéré cette idée du jugement dernier, l'a même retirée, on n'en parle plus aujourd'hui, ça fait peur, c'est pas vendable. Alors, est-ce qu'on est passé d'un Dieu juge, d'un Dieu gendarme, à un Dieu tout amour ? En même temps, vous dites que le jugement dernier finalement réapparaît sous une autre forme à travers la science-fiction, à travers le cinéma, à travers même la littérature. Donc on ne peut pas totalement bannir ce jugement dernier. Finalement, il existe quand même.
Il existe quand même. Et alors Daniel Margera a une jolie image pour parler du Dieu tout amour, parce qu'on est passé, comme vous le dites, du Dieu juge terrible au Dieu tout amour. Il dit c'est un chat qui ronronne sur le radiateur. Et retrouver maintenant où se trouve notre espérance, peut-être parfois, il faut quand même qu'il y ait une justice. Alors je pense qu'il, lui et moi, nous faisons référence au mal absolu, au mal le pire, au mal comme nous l'avons connu malheureusement au siècle dernier. Et là, devant un tel mal, il n'est pas possible de penser qu'il n'y aura pas de jugement, qu'on ne peut pas laisser le mal, la terre aux méchants, l'humanité aux méchants. Il faut qu'il y ait quelque part une justice qui s'établisse, même si on ne sait pas où ni comment, ni... Voilà, il y a une protestation. Il dit quelque part, croire au jugement dernier, c'est entrer en résistance. Et je comprends que par rapport au mal, au viol, au meurtre, tout ça, il y a une protestation de l'âme humaine qui dit ce n'est pas possible que ça se termine comme ça.
Mais est-ce que ça n'a pas été inventé pour les plus faibles, pour les rassurer quelque part ?
Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas si ça a été inventé. On peut pas, si vous me dites est-ce que Dieu a été inventé pour rassurer, je ne peux pas vous dire non, j'en sais rien. Ça correspond. C'est vrai que le jugement et le Dieu bon correspond à un désir. Mais je ne vois pas. De temps en temps, on dit, mais ça correspond tellement à ce qu'on désire que ça ne doit pas être vrai. Mais attendez, il y a beaucoup de choses qui correspondent à nos désirs et qui sont vraies. Un enfant peut désirer le lait, il reçoit du lait. Il peut désirer être aimé, et quand même, dans la plupart des temps, c'est ce qui lui arrive. Donc, le désir n'invalide pas forcément une réalité.
Daniel Margueras s'appuie beaucoup sur le Nouveau Testament, dont il est d'ailleurs spécialiste, sur les paraboles, on en a parlé, et puis sur les épîtres de saint Paul. Il insiste d'ailleurs au cours des chapitres sur ces paraboles, en montrant qu'au fur et à mesure, finalement, ce jugement dernier n'est pas là où on pense qu'il pourrait être, mais il est presque dans notre cœur, en dedans de nous. Et il prend pour exemple notamment la parabole des talents. Et alors, vous avez une sorte de disputation entre vous deux à propos de ces paraboles. Et à chaque fois, cette parabole, eh bien, elle est enrichie par vos explications. Est-ce que vous pourriez, là devant nous, nous en faire une démonstration de cette parabole des talents? Parce que c'est assez intéressant. Et puis, vous vous appuyez sur ce chiffre 8, ce mystérieux chiffre 8.
Alors là aussi, j'aimerais que vous ayez le texte sous les yeux. C'est très difficile de faire ça en trapéziste volant. Mais vous vous souvenez peut-être que d'habitude, on le dit, loin du grec, il faut reconnaître, on dit le maître confie ses biens à ses serviteurs. Seulement, ce verbe est interprétable autrement. On peut dire qu'il leur transmet ses biens. Or, confier, c'est demander qu'on vous restitue quelque chose qui ne vous appartient pas. Et transmettre, surtout quand on paradis de mise, ça peut vouloir dire, par exemple, quand un roi quand on transmet à son fils la royauté. Vous voyez que c'est un don sans retour. Alors, selon l'instance psychique qui lit, c'est-à-dire selon qu'on est dans le haut de sa tête ou dans le fond de son cœur, on ne lit pas la même chose dans cette parabole. Mais il se trouve que le grec au plus près, on peut entendre que le maître donne, transmet sa fortune et qu'il part. Il n'est pas question qu'il revienne. Et on a traduit « il revient », mais c'est « il vient ». Plus tard, et c'était pas attendu. Et j'en veux aussi pour preuve que les deux premiers serviteurs, vous savez, ils donnent à l'un 5, à l'autre 2 et au troisième 1. Alors ça mérite aussi une explication. Mais quand ceux qui ont reçu 5 et 2 viennent le voir, puisqu'il est là, maintenant, il est de nouveau là. Il ne lui rend pas les talents. Il lui dit « Vois 5 autres que j'ai gagnés ». Il n'est pas question dans le texte de « Je te rends tes talents plus 5 ». Il lui dit « Vois, regarde les 5 autres que j'ai gagnés ». Ça m'a tout à fait persuadée qu'en effet, cette parabole tournait autour de croire au don ou ne pas croire au don. Alors le troisième serviteur, celui qui n'en reçoit qu'un, va l'enfouir dans la terre. Ça correspond à une coutume juive qui est que quand on vous a confié un bien, si vous l'avez enfoui dans la terre, vous avez fait tout ce que vous deviez et s'il vous est dérobé, ça ne sera pas de votre faute. Donc il se comporte comme quelqu'un auquel on n'a pas donné mais confié. Et d'où tout le dialogue qui suit après, qui est très différent des deux premiers, évidemment. Bon. Là aussi, il faudrait beaucoup plus de détails, mais les 5, 2 et 1, pendant longtemps, je me suis dit, bon, ça correspond à ce que chacun peut s'approprier. comme nous, vous savez, comme quand on digère, quand on mange, on mange la quantité qu'on va pouvoir digérer, c'est-à-dire rendre bon pour soi. Donc, ceux qui peuvent digérer 5 deniers et 5 talents, ils vont le faire, et puis, bon, 2, pareil. Pourquoi 1 ? Alors, souvent, j'ai travaillé ce texte avec d'autres gens qui m'ont dit « mais c'est pas juste, c'est toujours… » Alors, à ceux qui ont, on donne, et à ceux qui n'ont pas, enfin, c'est épouvantable. Alors, j'ai cherché… Qu'est-ce qui... Alors ça, c'est la psychanalyse là, qui ouvre des portes, évidemment, qui n'étaient peut-être pas ouvertes avant. Si c'était un rêve, je dirais, qu'est-ce que ça vous rappelle 5, 2, 1 ? Alors je me le demande à moi-même, ou je le demande à la Bible, qu'est-ce que ça te rappelle 5, 2, 1 ? Et je vois que là, j'ai 5 doigts, et puis j'ai 2 bras, et puis j'arrive à l'unité de... Là, à partir de là, c'est 1. Et... À ce moment-là, ce qui veut dire qu'on donne des choses qui sont de plus en plus proches de l'unité, donc probablement de plus en plus difficile à s'approprier, puisque l'un est plus difficile que le multiple. Ça, on peut penser ça, j'allais dire, philosophiquement. Mais après, il faut trouver quelque part une correspondance dans la Genèse ou dans la Bible. Et effectivement, dans la Genèse, il y a 5 jours, puis 2 jours, puis 1 jour. Ça va correspondre à la création de la terre et des animaux. 5 jours. Et puis 2 jours, c'est l'humanité et le sabbat. Ça, on a su faire. Avec 5, 2, on a su faire. Et le 8e jour, parce que 5 plus 2, ça fait 7, donc le 1, c'est le 8e talent, et bien ça, si c'est l'éternité, on n'a pas su faire. Et à la Genèse, quand il rate le passage vers le 8e jour, la semaine recommence, c'est-à-dire on revient de nouveau au premier jour de la semaine, et il y a 7 jours, et puis ça recommence. Et donc, ce 8e jour, enfin, là, ça va trop vite sans doute pour que vous puissiez accrocher facilement, mais ce 8e jour, et puis comme vous venez de le dire au début, ce 8 qui renvoie dans l'humanité entière à des choses tellement merveilleuses, sublimes, infinies, résurrection, 8e jour, circoncision, 8e jour, vous voyez, donc il y a énormément plus de profondeur dans une seule parabole que nous n'avons l'habitude d'en trouver en lecture de surface.
Mais c'est très bien expliqué dans le livre. Je vous renvoie à la lecture, on comprend parfaitement. Vous venez de parler du passage raté dans la Genèse, et vous parlez du jugement dernier et du jugement premier. Le jugement premier, finalement, c'est ce qui correspond à la chute d'Adam et Ève.
Alors, avant de revenir à la Genèse, je dois vous raconter une petite histoire du jugement dernier et du jugement premier, parce que nous avons donné des titres à nos chapitres au dernier moment, c'est-à-dire les épreuves étaient déjà faites, et l'éditeur nous a dit avec raison, vous devriez mettre un titre à chacun de vos chapitres, bref, nous avions trouvé des titres, et moi j'avais mis « Jugement premier », et je reçois le livre, et je lis la table des matières et je vois écrit fracas, feu, je ne sais pas quoi, jugement dernier. Je me dis, mais je n'ai pas du tout écrit ça, j'ai écrit jugement premier. Alors, il y a eu un mouvement d'inquiétude et vous voyez qu'un excellent éditeur comme Albin Michel n'est pas à l'abri de l'inconscient parce qu'il n'avait pas été question d'écrire jugement premier. C'était deux mots qui n'allaient pas ensemble, et je pense qu'un inconscient, quelque part, a rétabli l'habitude du jugement dernier. Alors, ce jugement premier, c'est celui de la Genèse, et on s'aperçoit, en regardant bien, que le Dieu ne rend pas du tout d'abord responsable Adam. Et ça fait partie de ma disputation avec Daniel Marguerat, qui est beaucoup plus sensible que moi à une responsabilité... tous azimuts, j'allais dire, alors que je voulais lui montrer, lui dire, mais Dieu ne commence pas par dire « qu'as-tu fait ?» Il commence par dire « qui t'a raconté que tu es nu ?» Donc, qui t'a fait honte, puisque c'est la honte à ce moment-là. Donc, ce jugement premier ne comporte pas la mise en accusation d'entrée de jeu, puis même pas du tout. Il y a une responsabilité, c'est vrai, mais il y a d'abord une tromperie. Comme on retrouve l'histoire de livret semé pendant la nuit par l'ennemi.
Et cette tromperie, elle va durer des siècles et des siècles, parce que finalement, c'est la femme qui est accusée dans l'histoire.
Oui, alors là, c'est une autre histoire.
Dieu n'accuse pas Ève.
Non. Mais toute la Genèse est peut-être relue autrement si on voit que l'interdit est donné dans la relation et que c'est aussi la loi de la relation qu'ils vont perdre. Mais ça, c'est une autre interprétation de... Et puis que le mot faute n'apparaît pas dans les deux premiers chapitres de la Genèse. C'est quand même étonnant qu'en Éden, il n'y ait pas le mot faute et que le mot faute n'apparaîtra qu'au chapitre 4 entre Caïn et Abel. Et ce sera dit à Caïn avant qu'il ait fait quoi que ce soit, en lui disant une faute est tapie à ta porte. Tu es en danger. Tu es en danger d'être dévoré, et effectivement, il va être dévoreur. Mais c'est pour l'avertir d'un danger et non pour l'accuser d'un acte.
Alors, il est impossible de tout évoquer ici ce soir, et puis il faut aussi que le lecteur découvre lui-même, pas à pas, cette disputation entre vous et Daniel Marguerat. Alors, je précise à ceux que la théologie ou la psychanalyse effraie, que vraiment le livre se lit avec une grande facilité et qu'il n'est pas du tout réservé aux spécialistes. Et une dernière question avant de donner la parole aux auditeurs. Marie Balmary, après avoir lu ce livre, faut-il oublier le jugement et ses procès et ne garder qu'une interrogation ? Que fais-tu de ta vie ? Que fais-tu de ton humanité ?
Oui, c'est une question de Daniel Marguerat. Évidemment, je ne peux pas répondre pour lui. Vous savez, moi je crois que tous ces textes-là sont à garder dans la mesure où... Enfin, de toute façon, qui suis-je pour dire qu'on ne va pas les garder? Mais je trouve qu'ils sont précieux parce qu'on peut cheminer avec eux d'une compréhension à une autre. Et ce n'est pas tous les textes qui permettent d'arriver malade et de guérir. Si on veut que la lecture soit d'emblée... juste, alors il ne faut pas lire la Bible. Parce qu'on va commencer par la lire de la façon la plus dure pour nous, probablement. Mais si on a la patience d'attendre que le texte se retourne, que la parole guérisse, alors c'est un texte qui guérit la parole. Est-ce que finalement la question va être... Qu'as-tu fait de ta vie ? Je ne sais pas, moi, il me semble que ce sont des textes de croissance et pas seulement des textes de responsabilité, des textes de naissance. Alors, est-ce qu'on est responsable de sa croissance et de sa naissance ? Ça, je ne sais pas. Mais naître d'en haut, c'est autre chose, me semble-t-il, que simplement une mise en jugement.
Donc, la lecture de la Bible, de tous ces textes, en fait, nous... peut nous nourrir et nous aider à progresser, à nous approcher au plus près d'une vérité ?
Oui, je le crois. Et je crois qu'il y a une tradition juive qui veut qu'on le lise à plusieurs. Ça me paraît extrêmement précieux, parce que tout seul, on a un super gendarme dans la tête qui vous dérobe le texte et qui vous met en accusation en 3 minutes. Avec des amis, on en guérit beaucoup plus facilement.
Bien, il nous reste à vous remercier, Marie Balmary, et aller regarder vos livres.
Merci à vous.